Le produit dont on va parler fait partie des drogues dures, tout à fait légales et socialement admises, et pourtant il tue encore 75 000 personnes par an en France, c'est-à-dire 22 fois plus que les accidents de la route. Ce produit est hautement addictif, on le rencontre partout, et les industriels se battent pour rendre accros les plus jeunes, qui sont bien sûr les consommateurs de demain. On l'appelle clope, sèche, tige, blonde. Vous l'avez compris, on va parler du tabac, et même du mois sans tabac, un événement annuel qui permet de faire le point sur le tabagisme et inviter chacun à se questionner sur sa propre consommation. Je reçois donc Françoise Amelot, directrice de Tabagir, une association qui accompagne dans l'arrêt du tabac.
Le tabac, c'est à vous ! On en viendra tous à vous !
Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de cette initiative Mois sans tabac ?
Oui, bien sûr. Alors, le Mois sans tabac, c'est un dispositif national qui a été mis en place en 2016, depuis 2016, qui copie le dispositif Stoptober, donc un dispositif qui a été créé et mis en place en Angleterre les années bien avant 2016. Et donc, nous, on l'a mis en place en France depuis 2016. Et puis, depuis 2016, on a pu inscrire, en tout cas, plus de 50 000 participants sur ce dispositif.
Donc, c'est une initiative à l'origine anglaise qui a été importée en France, donc en 2016. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur la consommation de tabac en France aujourd'hui ? Quelle est la tendance ?
Alors, la tendance, c'est qu'il y a une baisse de la consommation du tabac chez les jeunes. Donc, ça, c'est pas rien, parce que la porte d'entrée, c'est plus on commence tôt et plus, malheureusement, on tombe accro à cette cigarette. Et donc on a une baisse de la, en tout cas de l'initiation au tabagisme chez les jeunes. Et ça c'est plutôt de bon augure parce que moins on va expérimenter la cigarette, moins on a de risque de tomber dans sa consommation régulière.
Évidemment. Et alors ce qu'on observe aussi, c'est que la nicotine maintenant peut prendre plusieurs formes. Qu'est-ce qu'il en est de la cigarette électronique, des puffs, dont on a beaucoup parlé, qui était clairement destinée justement aux jeunes consommateurs ?
Oui, tout à fait. C'était bien un produit créé par les industriels du tabac pour appâter, en tout cas les jeunes. Que vous l'avez bien dit dans votre introduction, les cigarettiers, les industriels du tabac mettent le paquet, si je puis dire, sur ce différent dispositif. Donc les puffs, on attend la loi là qui devrait paraître incessamment sous peu, qui interdit la vente des puffs aux jeunes. Et ce qu'il faut retenir en fait, c'est surtout ces goûts très attirants pour les jeunes, qui donnent ce côté un peu fun de cette cigarette électronique. Non seulement il y a le goût, c'est très attrayant, il y a par contre de la nicotine, voire beaucoup de nicotine. Il y a des modèles avec plus de 9 000, 12 000 bouffées. Donc c'est très, très impressionnant en termes d'entrée, on va dire, par rapport à l'entrée, la mise en contact avec de la nicotine. Toutes les puffs n'ont pas de nicotine, mais par contre, il y a des odeurs, etc., qui sont des colorants, des goûts qu'il faut éviter quoi qu'il arrive. Et puis c'est surtout un objet qui n'est pas du tout recyclable et qui est
également la question écologique aussi, évidemment. Et puis la problématique d'associer des goûts finalement très sympathiques avec un produit qui potentiellement peut devenir extrêmement dangereux et emmener vers des produits beaucoup plus dangereux. Il faut le répéter quand même souvent, donc vous pouvez peut-être quand même nous rappeler les principaux problèmes de santé qui sont liés au tabagisme. Pourquoi le tabac est dangereux, même si ça semble une évidence, ça ne l'a pas toujours été?
Alors, bon, c'est pas quelque chose qu'on aime redire. En tout cas, nous, à Tabagir, on va pas insister sur les risques de cancer, bien évidemment, les infections respiratoires. Il y a ce qu'on appelle la BPCO, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive. Et donc ça, c'est plus de 44 000 cas par an. Les infections respiratoires, c'est 241 000. Les cancers, c'est, je crois, 35% des cancers sont liés au tabac. Donc, on a beaucoup, sans parler des 75 000 morts annuelles liées au tabac. Là, c'est vraiment les grosses lignes. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que le tabac, ça intervient un peu partout sur notre organisme. Et ça développe ce qu'on appelle les maladies cardiovasculaires. Donc, ça peut être des infarctus, etc., etc.
D'accord. Je le rappelle juste, le tabagisme, en fait, c'est la première cause de mortalité évitable en France.
Évitable, oui. On supprime le tabac et on sauve 75 000 personnes.
Ce qui est énorme. Le mois sans tabac, c'est l'occasion donc, d'entreprendre une démarche de sevrage tabagique. Alors là, on est vraiment dans votre métier. Comment est-ce qu'on met toutes les chances de son côté pour réussir ? Comment est-ce qu'on aborde ce sevrage ?
Alors, Dans le dispositif du mois sans tabac, on peut récupérer un kit. Donc c'est un petit une enveloppe qui comprend un certain nombre d'éléments, dont un petit programme de 40 jours. Donc on se prépare pendant 10 jours et on arrête pendant 30 jours. Donc c'est très très bien fait. Vous avez des tests et vous pouvez évaluer et mesurer et chiffrer un petit peu votre consommation, quel type de cigarette. Voilà, vous vous préparez. Hein. Il y a les 10 jours de préparation avec ces différents tests. On mesure son niveau, par exemple, de motivation, son niveau de dépendance. On fait un petit peu le point sur toutes les cigarettes fumées tout au long d'une journée. Est-ce que c'est une cigarette plaisir, une cigarette, ce qu'on appelle plutôt de dépendance, ou une cigarette qu'on sort juste comme ça, par automatisme. Donc, c'est plutôt bien. C'est un gros travail qui est fait par chaque fumeur. Cet outil est très bien réalisé. Il y a également une petite roue, ça s'appelle la roue de l'économie, moi j'appelle la roue de la fortune, parce que ça coûte cher de fumer. Alors bien évidemment, et on le sait, hein, il y a beaucoup de gens qui changent leur type de consommation, qui ne sont plus sur des cigarettes en paquet, mais sur des grosses boîtes de tabac et des tubes, ou bien encore pire encore, parce qu'en fait... oui, mais c'est pas le plus fort, c'est surtout en termes de toxicité, j'entends. En fait, on pense réduire sa dépense financière par rapport au tabac, et donc on va fumer des tubes ou bien des roulés, et ce sont des consommations qui sont plus toxiques, parce qu'on la combustion est beaucoup moins bonne, et du coup, on inhale beaucoup plus de monoxyde de carbone, et c'est aussi pour ça qu'on fait des sensibilisations à des mesures de monoxyde de carbone sur nos stands un petit peu partout sur la région.
D'accord. Si je vous entends bien, donc pour arrêter de fumer, il faut faire un travail de préparation, vraiment. Mm-hmm. Ça veut dire que la dimension psychologique de l'arrêt du tabac, elle est extrêmement importante. Ce n'est pas qu'une dépendance physique, j'ai envie de dire.
Tout à fait.
C'est hautement comportemental. Là aussi, est-ce qu'il y a un intérêt à se faire accompagner, à peut-être en parler à son médecin, évidemment, mais à un psychologue, à quelqu'un qui peut nous aider, justement, sur le plan psychologique?
Oui. Alors nous, Tabagir, vous le savez, on accompagne de manière pluridisciplinaire nos patients, parce que c'est ce qui a fait ses preuves. On s'appuie sur les recommandations en tabacologie, qui sont sorties et validées par la Société francophone de tabacologie. Donc le premier principal élément de prise en charge, ce sont des consultations médicales par des professionnels, en tout cas par Tabagir, des professionnels qui sont formés à la tabacologie, et on accompagne bien évidemment avec 4 consultations auprès d'un psychologue. Donc là, on ne va pas faire une psychothérapie, hein. C'est vraiment travailler sur l'incidence de la consommation du tabac, donc on est sur les thérapies comportementales et cognitives. Donc, comme vous l'avez si bien dit, on prend en charge la partie, on va dire, physique, nicotine, avec la consultation médicale. Et puis tout ce qui est plutôt psychologique, dépendance comportementale, gestuelle. Et puis on est conditionné. Bien souvent, les fumeurs qui fument depuis longtemps. Et donc, on a des automatismes. Et parfois, on a une dépendance forte à ce niveau-là, à ces gestes. Et puis à des comportements associés, par exemple café-cigarette ou des soirées-cigarettes. Voilà, on a différents types de comportements et de dépendance. Et donc là, quand on a un fort niveau de dépendance, on va dire comportementale, gestuelle, on peut consulter la psychologue. Donc tous nos psychologues sont formés également à la tabacologie et sensibilisés aux thérapies comportementales et cognitives.
Donc une fois qu'on a fait ce travail de préparation, on passe à l'action.
On programme son rendez-vous.
Ouais.
Alors là, bon, il n'est jamais trop tard pour arrêter. Hein. L'objectif du mois sans tabac, comme je vous l'ai dit, c'est 10 mois de préparation, 30 jours on arrête. Uh-huh. Parce que si on arrête un mois, on a 5 fois plus de chances d'arrêter définitivement de fumer.
D'accord. Et alors justement, au-delà de ces un mois, est-ce que l'échec, ça fait partie de la démarche, ça fait partie du sevrage?
Tout à fait.
D'accord.
C'est exactement ça. Vous avez tout compris. En fait, il faut faire un certain nombre d'arrêts pour sortir définitivement de cette dépendance. Alors, on est tous différents. Donc, il y a des personnes qui vont arrêter du jour au lendemain et puis d'autres qui vont prendre 3, 4 essais et puis d'autres 5, 7 et puis d'autres encore plus. Mais en moyenne, c'est environ 6 tentatives d'arrêt pour arrêter définitivement le tabac.
Ah oui, effectivement.
Ça fait partie du processus, hein,
tabacologie. Bah oui. Et alors, pour quelqu'un qui a réussi à arrêter de fumer de façon un petit peu durable, quels sont les pièges à éviter, justement?
Alors, les pièges, comme je vous le disais à l'instant, on est tous différents. Hein. Les fumeurs fument tous pour... Je dis « on » parce que moi, je suis une ancienne fumeuse. Mm-hmm. Chaque personne fume pour une raison qui lui est propre. Et donc, pour certaines personnes qui vont arrêter du jour au lendemain, ça va être... c'est comme ça, c'est terminé. Ils peuvent côtoyer des fumeurs, ça ne va rien leur faire. Ils peuvent même refumer parfois une cigarette sans que ça leur fasse rien. Mais ce n'est pas la majorité. Malheureusement, souvent, quand on est dans cette démarche d'arrêt, on a en fait un certain nombre de ce qu'on appelle des récepteurs nicotiniques au niveau cérébral qui se sont développés, démultipliés même, je peux dire. Mmh. Et donc, quand on va arrêter de fumer, ils ne vont pas être supprimés, ils ne vont pas être détruits et éliminés. Ils restent là en veille, en attente que la substance se représente.
Ouais.
Et si, dans la majorité des cas, si on reprend une cigarette, ça réactive tout ce système donc de dépendance, avec ça réactive tous ces envies de récepteurs nicotiniques qui ont besoin de leur dose de nicotine. Il ne faut pas oublier que quand on allume une cigarette, on a un shoot en 7 secondes.
Oui, oui, oui.
Donc moi, ça, c'est ce qui fait qu'on se sent bien, que ça fait plaisir à la cigarette, que ça détend, que ça déstresse. C'est cet effet shoot qui donne cette impression de plaisir et de déstress.
Donc le piège à éviter, en fait, c'est cette fameuse première cigarette qui va venir réactiver à nouveau les récepteurs, et qui va faire que le lendemain, on va courir au bureau de tabac pour racheter un paquet.
Tout à fait. Ça réactive tout le système de dépendance et donc du coup, on ouvre la porte à la reprise de la cigarette.
D'accord. Donc on s'interdit cette petite cigarette plaisir qui va remettre en service tout le processus, on va dire, de dépendance.
Tout à fait. Dans un premier temps, c'est ce qu'on peut se faire. Après, il y a des gens qui vont être, comme je vous le disais tout à l'heure, dégoûtés de l'odeur du tabac. Mmh. Il y en a pour qui ça ne va pas déranger, puis d'autres, ça va être vraiment un rejet. Parce que très vite, on retrouve du goût, de l'odorat, on respire mieux. Enfin voilà, on sent beaucoup plus de choses qu'on élimine très vite en fait. Hein, même le monoxyde de carbone, je vous disais, si on fume une cigarette, si on fume une tubée, ça buvrait comme si on fumait une cigarette et demie, voire deux cigarettes. Et si on fume une roulée, ça équivaut à trois blondes quasiment.
Ah oui.
Comme si on fumait trois blondes, quand je dis trois cigarettes, qui sortent d'un paquet. Et donc, en fait, dès qu'on arrête de fumer, le taux de monoxyde de carbone expiré, donc tout ce qu'on a avalé, c'est lié à la combustion. Hein, le monoxyde de carbone, c'est ce qu'on retrouve aussi à la sortie des pots d'échappement. Eh bien, ça va s'éliminer au bout de 48 heures de notre organisme. Donc là, on va re-respirer, on va alimenter notre organisme d'oxygène et non plus de monoxyde de carbone. Et on commence déjà à faire un bon travail, on récupère.
Les premiers effets de l'arrêt du tabac, effectivement, on les sent rapidement. Vous l'avez dit, hein, vous êtes une ancienne fumeuse vous-même, c'est mon cas aussi, alors on peut en témoigner. Très rapidement, effectivement, on se sent quand même nettement mieux de ce point de vue-là. Et au bout de combien de temps on peut considérer que on échappe au danger du tabac une fois qu'on a arrêté de fumer?
Alors là, c'est la question.
Ça dépend des gens,
à laquelle on ne peut pas répondre, en fait.
Il n'y a de moment où on peut dire, ok, là, je suis un ancien fumeur, mais il s'est écoulé tant d'années depuis ma dernière cigarette.
Je serai toujours un ex-fumeur.
Oui, évidemment.
Et on ne peut pas dire au bout de combien de temps c'est gagné, parce que la vie nous réserve parfois de drôles de tours, si je puis dire, et voilà, des fois la cigarette revient pour des raisons X ou Y, et voilà, on retombe dans ce piège du tabac.
Attention aux moments de fragilité qui peuvent être ces moments de reprise, quoi, finalement.
Ouais, c'est ça, dans ces moments de fragilité, comme vous dites, on peut toujours se remémorer tout ce qu'on a mesuré d'impact positif de l'arrêt.
Oui.
Parce qu'il y en a quand même beaucoup, et les patients, enfin notre patient, les liste très bien, d'ailleurs. Et c'est quand même les patients qui en parlent le mieux. Et c'est vrai que dans un coup de moins bien, est-ce que vraiment cette cigarette-là va m'être utile? Sur l'instant, c'est ce que ça paraît, c'est ce que ça laisse croire, mais pour autant, ça ne va pas régler le problème s'il y a un gros souci, voilà, un gros choc émotionnel. Ça ne va pas le régler du tout et ça ne va pas m'aider non plus à passer ce cap difficile. Bien se poser les questions sur quand on reprend une cigarette.
On voit la cigarette comme une béquille, mais en réalité, qui n'en est pas une, quoi.
Tout à fait.
Pour revenir un petit peu sur le mois sans tabac, est-ce qu'au niveau de Tabagir, vous avez prévu ou vous avez effectué, parce que le mois est déjà un petit peu avancé, des actions?
Oui, on a programmé plus de 40 actions sur toute la Bourgogne-Franche-Comté. Et donc là, elle commence en octobre, hein, parce que bien évidemment, on se prépare en octobre pour arrêter le 1er novembre. Et puis, par exemple, là, on en a déjà réalisé 22, donc il en reste sur 40 encore un certain nombre qu'on met en place sur l'ensemble de la région.
D'accord. Pour les gens qui voudraient éventuellement vous contacter parce qu'ils font partie, alors j'ai lu ce chiffre, hein, il y a 6 fumeurs sur 10 qui souhaitent arrêter de fumer, je ne sais pas si vous le confirmez.
Oui, oui, alors j'étais un tout petit peu en dessous, mais 6 sur 10, ouais. Ça me paraît tout à fait ça, parce qu'on dit que la moitié des fumeurs, au moins la moitié des fumeurs souhaitent arrêter de fumer.
Donc ça veut dire qu'au moins la moitié des fumeurs considèrent qu'il y a plus de désagréments que d'avantages, et c'est une bonne nouvelle. Comment ils peuvent vous contacter, du coup, pour entreprendre cette démarche?
Tout simplement en nous appelant par téléphone au 03 86 52 33 12. Et donc, et là, c'est pour tous les bourguignons franc-comtois. Mmh. Peu importe où on habite, on a plus de 420 professionnels répartis sur toute la Bourgogne-Franche-Comté pour essayer de répondre au plus proche des habitants et surtout des fumeurs qui souhaiteraient arrêter de fumer et se faire accompagner par Tabagir.
D'accord. Je crois que vous avez un site aussi,
tabagir.fr. On a un site internet tabagir.fr, on a une page Facebook et Instagram.
Bon, c'est une bonne résolution, même si on n'est pas encore au début de l'année prochaine. Merci Françoise Amelot.
Avec plaisir.
Je rappelle que vous êtes directrice de l'association Tabagir et c'était un plaisir de vous avoir pour faire le point sur ce problème et pour surtout envisager des solutions. Merci à vous.
Merci encore à vous.
Je vous invite donc à vous rendre sur tabagir.fr pour en savoir plus. Et cette émission sera bien sûr à retrouver en podcast sur bacfm.fr. N'hésitez pas à la partager.